violadas, mujeres trafegadas, violadas dentro de todas las casas, mujeres edo mundo illadas. Ergámonos, mujeres, rachemos as barreiras, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé. Rachemos as barreiras, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé. Reconocémonos todas mujeres, no sentir donos allá, oprimidas as mujeres, queremonos rebelar. Ergámonos mujeres, rachemos.
Bonjour, la révolution sera féministe hein, sur Radio Galère. Alors, pour commencer, par rapport à l'actualité, je vais vous inviter à un rassemblement et manifestation pour la Journée internationale pour l'élimination des violences contre les filles et les femmes. J'ajouterai les violences masculines. Mot que l'on n'accole pas encore en parlant des violences contre les filles et les femmes, certainement par peur et par déni. Donc voilà, j'ajoute violences masculines contre les filles et les femmes. Donc c'est samedi 27 novembre à 14h devant la mairie centrale de Marseille. Il y aura aussi notre déléguée aux droits des femmes, Nathalie Tessier, qui est une amie de lutte, qui a organisé des choses avec la mairie. Donc maintenant qu'elle est déléguée, qu'il existe, c'est récent, une délégation aux droits des femmes, les choses bougent à Marseille. Et c'est donc la première fois aussi que les associations féministes ont pu être invitées à la mairie, reçues, etc. Et entendues, écoutées. Et il y aura aussi donc par rapport au féminicide en France, je rappelle, un féminicide en France, ça n'arrête pas tous les 2 jours et demi. Ça continue, ça continue. Donc il y aura un FEMAGE organisé pour toutes ces femmes féminicidées. Donc cet appel et rassemblement est organisé par les principales associations universalistes et abolitionnistes de la prostitution à Marseille. Donc Oser le féminisme 13, Femmes solidaires Marseille, Assemblée des femmes, Négar, soutien aux femmes d'Afghanistan, le CEL, qui est une association lesbienne féministe, l'Union des femmes GAMS Sud, qui lutte contre les mariages forcés et les excisions, l'excision, Femmes solidaires 13. Ensuite, il y a aussi Mouvement Jeunes Femmes, Centre des Femmes Kurdes de Marseille, Marche Mondiale des Femmes, le CAL, le Centre pour le Droit des Femmes 13, Forum Femmes Méditerranée, Éclosion 13, Attaque Marseille, le MRAP, Mouvement de la Paix, FSU, Génération Marseille et voilà en dernier des partis PS13, PCF13 qui se sont joints à cet appel. Donc je vais vous lire ce texte qui a été rédigé collectivement. Qui est assez long, écrit tout petit sur un tract qui sera distribué, qui sera lu, j'espère. Voilà, il y avait tellement de choses à dire. Donc, on aurait pu en écrire 10 pages. Là, c'est une page à 4, très bien remplie. Donc, je vais vous le lire. Le mouvement contre les violences faites aux femmes a pris un nouvel essor partout dans le monde. Lutte des Afghanes pour leur vie et leurs droits fondamentaux supprimés par les milices talibanes au pouvoir. Donc, parenthèse, il y a un rassemblement prévu par des associations féministes européennes à Bruxelles et je vous lirai leur appel juste tout à l'heure. Donc, lutte des Polonaises pour le droit à l'avortement, lutte des femmes kurdes poursuivies du fait de leur engagement politique au Rojava. Nous sommes solidaires de la lutte des femmes du monde entier. Quand les femmes gagnent, ce sont toutes les femmes qui gagnent et, in fine, la société y gagne. En France, nous avons obtenu des lois qui condamnent les violences faites aux femmes et de trop rares lois qui ouvrent la protection internationale à des femmes victimes de violences spécifiques. Nous avons obtenu quelques campagnes de prévention contre les violences conjugales, contre le harcèlement sexuel, pour l'égalité filles-garçons. Et pourtant, les chiffres sont terriblement stables. Tout continue. Ces lois ne sont pour la plupart pas appliquées. Les moyens et la volonté politique manquent. Les violences sexistes et sexuelles continuent. Les violences conjugales frappent chaque année plus de 200 000 femmes et se terminent trop souvent par des féminicides. En France, en 2021, 101 femmes ont été assassinées par leur conjoint ou par leur ex. Les violences sexuelles contre les femmes et les enfants sont massives et passées sous silence. 94 000 femmes sont victimes de viols ou de tentatives de viols chaque année. Une fille sur 5 et un garçon sur 13 sont victimes d'inceste. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce chiffre, une fille sur 5, tout le monde devrait être dans la rue pour lutter contre cela. Aucun espace n'épargne les filles et les femmes. Dans la rue et dans les transports, nous subissons le harcèlement, les insultes, les agressions sexuelles et les viols. Sur les réseaux sociaux, le cyberharcèlement, les innombrables messages à caractère sexiste qui ne sont quasiment jamais supprimés. Dans l'espace privé, les violences conjugales, les viols, la pédocriminalité, les féminicides. Dans les établissements de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, au travail, harcèlement sexuel, agression sexuelle, viol, etc. Nous nous confrontons toujours à l'inversion des responsabilités entre la victime et l'agresseur, à la suspicion de provocation, à la minimisation des faits, au chantage aux conséquences, au mépris, aux menaces de viol, notamment pour les femmes lesbiennes. Les décisions de justice montrent un mépris profond pour les victimes, déqualification des viols en agression, voire en atteinte sexuelle, impunité des agresseurs. Donc, in fine, je rappelle ce chiffre effrayant, 1% des violeurs sont condamnés pour le crime qu'ils ont commis en France. Dans le monde politique, nous avons assisté cette année à l'élection, la nomination et parfois à la promotion d'agresseurs sexuels et de personnalités ouvertement misogynes, donc qui sont même Dupond-Moretti, Gérard Darmanin, aux manettes du gouvernement. Donc Dupond-Moretti profondément misogyne, qui défend l'inceste heureux, et Darmanin qui est poursuivi pour viol. Alors, nous nous confrontons aussi à des dévoiements et à des récupérations qui complexifient nos luttes. Ainsi, le système prostitutionnel se trouve au sommet de l'alliance entre capitalisme et patriarcat. Ce système d'exploitation est violent, raciste, sexiste. La très grande majorité des personnes en situation de prostitution sont des femmes, à 95%, et parmi elles, La plupart sont étrangères, 90%. Des personnes en situation de prostitution sont des femmes victimes de traite. Elles sont pour la plupart contraintes par la violence et ou par la misère et ou par le non-droit. Le système prostitueur réussit pourtant à trouver des alliés qui se revendiquent aussi du féminisme, et c'est ce qui me révolte le plus, ce qui m'épuise, puisque je fais beaucoup de pédagogie dans cette émission pour alerter et pour expliquer ce qui se passe, mais se battre à l'intérieur du féminisme, enfin d'un faux féminisme, c'est mortel, quoi, c'est terrible. Mais je reviendrai donc, puisque l'abolition de la prostitution est un grand sujet, et j'y reviens à chaque émission, et j'y reviendrai tout de suite après avoir fini ce texte, en fait. Voilà. J'y reviens. Donc, je poursuis ce texte. Les idéologies rétrogrades résistent, durcissent le ton, font monter les enchères et la violence. Cela pèse lourdement sur les violences sexistes et sexuelles. Nous avons à nous mobiliser contre le backlash, le retour de bâton. Alors, un paragraphe sur les violences économiques contre les femmes. Les violences économiques contre les femmes se renforcent. La crise sanitaire a agi comme un révélateur. Elle se traduit pour les femmes par des doubles ou triples journées, alors que sous-payées, elles occupent la très grande majorité des emplois qui permettent au pays de tenir dans cette crise. L'économie capitaliste s'appuie sur le patriarcat pour diviser, pour assurer la flexibilité et pour garantir l'activité sociale utile, peu rémunérée et non rémunérée, du travail domestique. Tout le système tient sur l'infériorisation des femmes, majoritaires dans les temps partiels, le travail précaire et invisible. Avoir moins de droits, moins de revenus, moins de reconnaissance sociale et être plus dépendante favorise le risque d'être victime de violences sexistes et sexuelles. Donc effectivement, les inégalités économiques renforcent, justifient souvent les violences sexistes et sexuelles. Ces violences seront moins dénoncées, moins poursuivies, moins punies du fait des inégalités sociales. Le gouvernement ne peut prétendre lutter contre les violences masculines alors qu'il augmente la précarité au travail, diminue la protection sociale, prévoit un projet de réforme des retraites défavorable aux femmes, ferme ses frontières aux migrantes, contraint celles qui sont en France en situation irrégulière à une vie de non-droit, souvent pendant plusieurs années. Donc il est très important aussi de lutter pour les droits des femmes migrantes. Alors justement, quelles sont nos revendications? Elles sont très très multiples et nombreuses. Donc il y en a une petite liste que je vais quand même vous lire, c'est important. Donc, premièrement, adopter une loi cadre contre les violences sexistes et sexuelles qui permettrait de traiter tous les aspects de la prévention à la répression, en passant par l'aide aux victimes et une clause de revoyure pour apporter des améliorations en fonction de l'expérience et des résultats obtenus. Donc en France, on n'a pas de cette loi cadre qu'ont adopté certains autres pays européens comme l'Espagne et qui semblent bien fonctionner. Ensuite, deuxièmement, développer un plan de formation obligatoire pour toutes les professionnelles et au contact des femmes victimes de violences, policières, policiers, gendarmes, magistrates, magistrats, médecins, femmes médecins, sans oublier les élus, femmes et hommes. Ensuite, développer un programme d'éducation à l'égalité femmes-hommes dès le plus jeune âge, tout au long de la scolarité et dans les formations professionnelles. Ensuite, créer des places d'hébergement en nombre suffisant, conformément à la Convention d'Istanbul. Ensuite, renforcer les moyens des associations et des syndicats pour permettre l'accompagnement des femmes victimes de violences conjugales et faciliter leur mobilité professionnelle en cas de nécessité. Il faut aussi appliquer les lois existantes qui sont nombreuses en matière de violences sexistes et sexuelles et qui ne sont pas... Il n'y a pas assez de volonté politique en ce moment pour les appliquer. Et ensuite, un point très important, développer un accueil digne pour les migrantes et migrants. La régularisation avec droit au séjour et au travail étant le seul moyen de lutter contre les violences sexistes inhérentes aux situations de non-droit. Pour conclure, les violences patriarcales faites aux filles et aux femmes sont systémiques. Elles sont imbriquées dans nos modes de pensée et d'agir. Le gouvernement n'apporte que des demi-mesures, sans mettre les moyens nécessaires pour mettre fin à l'insupportable. Pire, les institutions et les politiques se rendent complices, valident, soutiennent des positions qui cautionnent ces violences. Voilà. Donc ce tract est terminé. Je pense qu'effectivement, chaque phrase compte. Et la conclusion est très importante. Effectivement, institutions judiciaires, notamment politiques, qui se rendent complices, qui valident, qui soutiennent, etc. C'est quelque chose de très important sur lequel il faut agir. Et j'essaye d'aborder aussi des solutions, des informations sur ce thème de l'impunité, notamment de la justice par rapport aux violences faites aux femmes. Et donc, c'est des choses sur lesquelles je reviens régulièrement au cours de ces émissions que j'ai déjà abordées. Voilà. Donc, du coup, j'ai prévu pas mal de sons aussi. Je suis toujours à la recherche de sons, puisque cette émission n'est pas mon émission. C'est l'émission des luttes féministes. Voilà. Donc, j'ai trouvé aussi... je vais vous passer un son que j'ai trouvé intéressant. C'est une intervention de Raphaël Rémy Leleu par rapport au MeToo politique. Donc, de quoi s'agit-il le MeToo politique en deux mots ? Eh bien, nous féministes, nous soutenons effectivement ces femmes du monde politique, universitaire, qui demandent que les auteurs de violences sexuelles et sexistes soient écartés de la vie politique. Les partis politiques doivent ouvrir les yeux, prendre toutes les mesures nécessaires pour que cesse cette omerta. Et donc, un MeToo politique a été lancé. Donc, quand vous écouterez Raphaël Rémy Leleu qui intervient, vous comprendrez que c'est pas, ça ne date pas d'hier, en fait, que des femmes en politique agissent pour dénoncer et changer les choses. Donc, actuellement, il faut savoir que nous avons trois candidats à la présidentielle qui sont pour lesquels il y a eu de nombreux témoignages d'agressions sexuelles et notamment Éric Zemmour mis en examen. Les deux autres, c'est Lassalle et Azzelino, qui sont cités dans de nombreux témoignages qui ne sont pas, pour l'instant, mis en examen. Donc, Raphaël Rémy Leleu est conseillère de Paris. Elle est ancienne porte-parole d'Oser le féminisme. Et donc, elle a écrit une tribune dans Le Monde pour parler de ce MeToo politique. Donc, avec 300 femmes politiques de gauche, nous avons, entre autres, Manon Aubry, de France Insoumise, nous avons Laurence Rossignol, Parti Socialiste, nous avons à EELV Sandra Régol et Sandrine Rousseau, et nous avons au PC l'adjointe au maire de Paris, Hélène Bidard, à la maire de Paris. Donc dans cette tribune, je ne vais pas vous lire la tribune, juste un tout petit passage qui dit « Au sein du Parlement, des mairies, des conseils départementaux et régionaux, des hommes mis en cause, parfois condamnés pour viol, pour agression sexuelle, pour atteinte sexuelle sur mineurs, pour violence conjugale, sont élus malgré les discours affichés sur la lutte contre les violences faites aux femmes, malgré nos alertes répétées. Une fois de plus, et à la veille d'élections cruciales pour notre pays, nous exhortons les appareils politiques à écouter les victimes et à faire œuvre de prévention. Le monde politique doit assumer ses responsabilités, écarter les auteurs de violences sexuelles et sexistes de ses rangs et faire preuve d'exemplarité dans les désignations. La parole des femmes s'est libérée, mais à quand une libération de l'écoute, une réelle prise en compte dans les partis politiques ? Nous exigeons que le monde politique prenne enfin en compte le mouvement MeToo. Voilà. Donc là, maintenant, il faut que je trouve juste me laisser le temps de chercher l'audio dont je vous ai parlé parce que je fais à la fois la technique et, et l'émission. Donc, c'est pas évident. J'ai perdu ma playlist. Il me faut le temps de la retrouver. Mince. Et en plus, ça n'a pas l'air de bien fonctionner. Alors ça, ça m'embêterait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mince, mince, mince. J'ai un petit problème en plus. Il ne manquait plus que ça. Aïe. Oh non. Bon. Ah, ça y est. Excusez-moi, voilà. Je suis vraiment désolée de ce tout petit contretemps technique. Mais comme je vous disais, je suis seule à faire tout ça. Ça y est, ça a marché. Alors, je vais vous trouver tout de suite Raphaël Rémy Leleu, qui donc est intervenu sur une radio, RTL, je crois. Enfin, c'est pas important, ça. Et vous allez voir un échange qu'elle a. Notamment, elle répond à un journaliste, Stéphane Simon, qui intervient de façon assez lamentable. Et je pense que vous allez vous en rendre compte de vous-même. Voilà. Donc, je n'ai pas encore trouvé l'audio en question. J'y suis presque. Voilà. Raphaël Rémy Leleu. Je pense que, comme moi, vous allez vous régaler à l'écouter.
Éric Zemmour et François Asselineau, qui lui est mis en examen.
D'accord. Raphaël Rémy Leleu, le monde de la politique vivait à l'écart du mouvement MeToo. Non, pas vraiment. Il y a eu déjà des dénonciations, des signalements, des condamnations de politiques un peu dans tous les partis ces dernières années.
Le monde politique ne vivait pas du tout à l'écart de MeToo. Et il y a même certaines révélations qui ont précédé MeToo. Il faut rappeler, c'est le 9 mai 2016, donc plus d'un an et demi avant l'explosion de MeToo, que des élus écologistes, notamment Sandrine Rousseau, Isabelle Attard, Hélène Debosse, témoignent contre Denis Baupin. Ça, c'est plus d'un an avant MeToo. Le problème, c'est que le monde politique, qui depuis a connu beaucoup d'autres rebondissements, qu'il s'agisse de M. Lassalle, de M. Asselineau, de M. Bailey, ne tire pas de leçons. On a l'impression de devoir refaire toujours la même chose. Et donc, je fais partie des 285 femmes qui ont signé cette tribune, aussi parce qu'on en a marre d'avoir à se battre, pas uniquement pour nos idées, mais pour avoir le droit de les dire et de les défendre, en étant en sécurité dans nos partis, dans les médias, dans les lieux de pouvoir, ce qui aujourd'hui n'est toujours pas le cas. Et parmi les secousses qu'il y a eu aussi dans le mouvement politique en lien avec MeToo et en lien avec les dénonciations des violences sexistes et sexuelles, je tiens aussi à citer « Chères collaboratrices ». Parce que ce qu'il y a de très fort dans la tribune qu'on publie aujourd'hui, c'est la présence des collaboratrices, des personnels politiques, pas uniquement des élus et des responsables. Et ces femmes-là sont aussi souvent en première ligne face à des comportements qui ont été impunis pendant des décennies.
Qui souhaite réagir ? Julien Arnaud, Stéphane Simon, Stéphane ?
Vous savez, moi je suis très attaché au principe qui constitue notre République, c'est-à-dire que je pense, et on y est invité, dès qu'on est victime ou témoin de faits graves, eh bien on doit les dénoncer auprès du procureur de la République. Ça c'est le préalable et c'est le commandement numéro 1. En revanche, j'ai pas beaucoup de goût pour la justice des réseaux sociaux et personnellement, le naming and shaming, comme on en voit beaucoup dans ces affaires MeToo, moi j'appelle ça de l'incitation à la délation. Je trouve extrêmement grave de jeter en pâture des noms en dehors des tribunaux. Tant que la preuve n'est pas faite, eh bien, en France, on considère que on est présumé innocent. Or, ce mouvement MeToo, depuis le début, j'ai les plus grandes réserves lui concernant, parce que cela constitue à chaque fois des désignations de gens dont on s'aperçoit qu'ils ne sont pas nécessairement, aux yeux de la justice, fautifs. Donc, c'est problématique pour moi.
Excusez-moi, vous avez lu la tribune ?
Pardon ?
Est-ce que vous avez lu la tribune ?
Je n'ai pas lu dans le détail la tribune, d'accord, mais je vois de quoi il s'agit.
Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de name and shame.
Non, je sais bien que dans cette tribune, il n'y a pas de nom qui est donné, mais vous incitez quand même à la prolongation de ce mouvement MeToo. Moi, je vais vous dire la vérité,
j'aurais souhaité que la justice continue
à s'opérer dans les tribunaux.
Qu'est-ce que vous dites quand Raphaël, quand Stéphane Simon dit attention, la justice et les tribunaux et c'est pas la divulgation de noms au grand public ?
Que c'est une nouvelle fois une manière de dévoyer le débat, puisque ça n'est pas le contenu de la tribune ni même ses revendications. Que je l'invite à lire l'excellent ouvrage de Marine Turki qui vient de sortir et qui s'appelle Faute de preuves, qui explicite bien les mécanismes par lesquels finalement le traitement par la justice des violences sexistes et sexuelles n'est pas ni juste ni suffisant. Mmh. Par ailleurs, ce que vous indiquez est faux. Il n'y a pas de principe dans la République qui oblige, quand on est témoin ou victime de faits graves, d'en témoigner. Il y a simplement l'article 40 du Code de procédure pénale qui s'applique à des fonctionnaires ou à des assimilés agents publics dans l'exercice de leurs fonctions. Donc, ce n'est pas tout à fait ce que vous avez dit. Bref, je pense qu'en termes de droit et de féminisme, il y a encore beaucoup de choses à faire et que la priorité ici, ce qu'il faut comprendre, c'est la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Il y a moins d'un pour cent des violeurs qui sont condamnés. Et bien, dans ces cas-là, j'aimerais bien qu'à chaque fois qu'on parle d'Éric Zemmour, on rappelle.
En tant que mouvement politique, battez-vous pour l'augmentation des crédits de la justice, battez-vous pour.
Oui, alors en fait, je fais ça tous les jours, donc je ne vais pas prendre de leçons de féminisme.
Et donc, ce que je vous invite à faire en tant que
polémiste, en tant que personne qui participe au débat public, c'est à chaque fois que vous parlez d'Éric Zemmour, d'interroger les accusations qui sont faites publiquement contre lui d'agression et de harcèlement sexuel.
Voilà, alors, non, c'est pas ça. Hop, je reprends donc juste le micro pour vous dire que je vais faire une petite pause musicale avec Cum Dederit Dilectis Suisse de Lynn McMurphy. Et je reprends après.
Thank you.
révolution sera féministe sur Radio Galère. Alors, je reprends en vous informant d'un podcast que j'ai trouvé très intéressant par rapport aux violences économiques. Donc, c'est un podcast de Titiou Lecoq que je viens seulement de commencer à écouter, mais ce que j'en ai écouté m'a beaucoup plu. Donc, je le mettrai dans les références du sommaire de cette émission pour que vous puissiez vous aussi écouter ce podcast. Donc, c'est un podcast qui s'appelle « Rends l'argent » par Titiou Lecoq, donc qui est une journaliste féministe qui écrit, qui a déjà écrit pas mal de livres. J'ai oublié les titres, mais vous les retrouverez vous-même. Je pense qu'ils sont très connus. Donc il y a 8 podcasts par rapport aux violences économiques, rend l'argent, et notamment elle parle, donc je ne vais pas vous lire tout le résumé des podcasts, mais un peu pour vous sachiez quand même de quoi ça parle, et vous donner envie, juste quelques-uns, ceux qui me semblent les plus intéressants. Donc premier podcast, elle revient sur l'histoire, le jour où l'argent est enfin devenu une question de femme, c'est un podcast qui dure 30 minutes. Saviez-vous qu'il a fallu attendre 1965 pour qu'en France, oui en France, les femmes mariées aient le droit d'ouvrir un compte en banque ? Que la première femme à entrer dans la bourse l'a fait en 1967, que pendant longtemps, le mariage a surtout été une question d'argent. Donc c'est un épisode où elle interroge sa mère et l'historienne Michèle Perrault pour comprendre le poids de l'histoire dans le rapport des femmes à l'argent. Ensuite, il y a un épisode qui s'appelle « L'argent, le dernier tabou des couples », pour savoir un peu comment ça se passe au niveau des couples, qui fait les comptes, etc. Et elle va à la rencontre des couples pour poser des questions qui fâchent. Troisième épisode très important qui parle des pensions alimentaires « entre guillemets » en fait, puisque ce n'est pas le bon terme. Donc, ne parlez plus jamais de pensions alimentaires. Violence économique, le terme est apparu dans les médias en 2018, avec les manifestations des Gilets jaunes. Il désigne un phénomène lié au couple, désormais bien connu, dont il faut prendre conscience. De même qu'on ne doit pas accepter les gestes de violence physique, on ne doit pas accepter la violence économique. La violence économique, c'est un conjoint qui demande à vérifier toutes les dépenses, qui exerce un contrôle sur l'autre via la thune. L'une des premières règles pour s'en protéger, c'est de conserver un compte personnel, de ne pas mettre tout son argent sur le compte commun, parce qu'en cas de séparation, l'autre peut le vider. Donc ça, il s'agit du sixième épisode où Titiou Lecoq va à la rencontre de Stéphanie Lamy, qui est la présidente de Abandon de Famille, une association qui interpelle les pouvoirs publics sur ce sujet. Voilà, ensuite il y a plusieurs podcasts, donc un autre podcast « Quand l'argent détruit le couple », sixième podcast « Oubliez le meilleur côté argent, un couple doit toujours se préparer au pire » de 21 minutes. Alors un podcast, le septième qui me semble très intéressant, qui s'appelle « Mesdames, votre famille vous arnaque ». Dans ce podcast, Titiou Lecoq va à la rencontre de Céline Bessière et Sybille Golac, qui sont sociologues et autrices du livre « Le genre du capital ». Ce livre a été écrit donc par ces deux femmes sociologues après 20 ans de travaux et montre comment, au moment des séparations et des successions, les femmes se trouvent défavorisées par rapport aux hommes. Traditionnellement, on étudie la répartition des richesses en fonction des classes sociales. Souvent, dans les travaux, on se sert de la famille comme d'une unité pour calculer la répartition des richesses, par exemple à l'échelle de la France. Problème, on a tendance à oublier que la famille est constituée d'individus et que la répartition entre eux n'est peut-être pas égale. Le genre du capital, les deux chercheuses sont allées voir dans les familles comment se répartissait le capital et, aux surprises, elles ont découvert qu'il était aux mains des hommes. Bienvenue au cœur des arrangements familiaux. Voilà, et puis il y a un dernier podcast, enfin en fait il y en a 8. Donc celui qui m'a semblé aussi très intéressant, c'est le quatrième. Pourquoi il faut mettre en place un impôt féministe ? Ça dure 26 minutes. Donc le thème c'est surprise, quand il s'agit d'impôts, un certain nombre de femmes se font arnaquer. Il y a un véritable enjeu à la fois féministe et de justice sociale, car le système actuel est profondément injuste. En France, on pratique ce qu'on appelle la conjugalisation des impôts, c'est-à-dire le fait que l'État oblige les couples mariés ou pacsés à faire une déclaration commune. Cette conjugalisation favorise les hommes, ou plutôt les gros revenus, donc en général les hommes. Ils sont comme récompensés d'avoir une épouse qui gagne peu ou qui ne travaille pas à temps complet, puisque cela fait baisser leurs impôts. Et si en plus on factorise la répartition des tâches ménagères, considérant le travail ménager comme un travail non rémunéré, non seulement la plupart des femmes effectuent un travail gratuit, mais en plus leur mari en tire un avantage fiscal. C'est comme si l'ensemble de la société payait pour décharger les hommes mariés. Donc dans cet épisode-là, elle va rencontrer Héloïse Boll, qui est une gestionnaire de fortune au sein de l'agence Oseille. Notamment, elle va rencontrer aussi Ariel Bond, qui est une journaliste ancienne rédactrice en chef de la newsletter économique et féministe. Voilà. Donc je mettrai la référence dans le sommaire de cette émission, si vous voulez, si vous intéressez à ces sujets qui nous concernent toutes et tous. Ensuite, pendant que j'y suis, je vais vous parler d'un événement qui a lieu ce soir, donc qui n'a pas de rapport avec les violences économiques, mais je retourne aux violences, plutôt aux violences conjugales, aux violences physiques ou sexuelles que subissent les femmes. Donc ça se passe ce soir, je vous invite à une soirée débat pour le livre de Sophie Boudboul. Son livre s'appelle « Silence, on cogne ». Il a été coécrit avec Alizée Bernard. Donc, de quoi s'agit-il ? Eh bien, Alizée Bernard a été victime de violences conjugales. Si elle savait les difficultés qu'ont les femmes à parler et à se faire entendre, elle n'imaginait pas combien le statut de son conjoint rendrait son combat pour s'en sortir plus difficile encore, car ce dernier était gendarme. Or, comment faire quand celui qui vous bat se sert de son statut, représentant de l'ordre, de sa place dans l'institution policière, de sa connaissance des procédures et des liens supposés de solidarité avec ses collègues pour vous intimider, vous dissuader de vous défendre et faire valoir vos droits. Donc, à Sophie Boudboul, qui est une journaliste qui travaille sur les violences faites aux femmes, elle a accepté de raconter son histoire. Les mois de silence, isolée en caserne, persuadée que nul n'accepterait de la croire, la peur démultipliée devant un homme incarnant la loi et disposant d'une arme de service. Puis les années de lutte seule pour faire valoir ses droits, malgré les obstacles qu'elle dénonce. Les tentatives de dissuasion de certains gendarmes, les procédures non respectées, l'absence de sanctions hiérarchiques, l'indulgence de certains juges, l'impression de se battre contre un système. Au récit de son combat, étape par étape, répond en alternance l'enquête qu'a menée Sophie Boudboul, car le cas d'Alizée n'est pas isolé. Chaque année, des femmes meurent sous les coups et les balles de leurs conjoints policiers ou gendarmes. Pendant un an et demi, elle a sillonné le pays pour recueillir le témoignage de femmes ayant connu le même chemin de croix. Les tentatives de dissuasion, les menaces, les procédures caduques, la protection, voire l'impunité, dont certains ont joui du fait de leur statut. Pour en comprendre les raisons, elle a rencontré des avocats, juges, magistrats, les membres d'associations aidant des femmes dans le même cas, les familles des victimes, mais aussi des policiers et des gendarmes, reconnaissant les conséquences de leur métier sur leur vie personnelle et l'absence de mesures pour les prévenir, et les hauts placés de l'IGPN et de l'IGGN, les instances d'inspection de la police et de la gendarmerie. Elle expose les failles d'un système qui ne pense pas à la place des femmes auprès d'hommes exposés à la violence et les risques que cela implique. C'est donc un texte engagé qu'elles ont écrit à deux mains, donc Alizée Bernard, Sophie Boudboul. Pour permettre aux femmes victimes de telles violences de savoir qu'elles ne sont pas seules, ouvrir le débat, proposer des pistes de réflexion, des solutions, pour protéger les victimes de ces violences particulières. Donc, je sais qu'Oser le féminisme s'est emparé de ce sujet. Là, je ne retrouve plus, mais ah voilà. Policiers et gendarmes auteurs de violences, et donc a lancé une pétition que je mettrai aussi en référence de cette émission. Une pétition justement pour réclamer le recensement, voilà ce qu'on peut déjà faire, pour réclamer le recensement des policiers et gendarmes violents avec les femmes et les enfants. Il faut se rappeler aussi cet événement dramatique, le 20 juillet 2021, la révélation d'un élément clé par le Canard enchaîné qui portait sur les dysfonctionnements de la police qui avaient été étouffés par la mission d'enquête interministérielle sur le féminicide de Chahinez Daoud qui a été brûlée vive par son ex-conjoint dans la rue à Marignac le 4 mai 2021. Et en fait, c'est un, le rapport soulignait que sa plainte qu'elle avait déposée mi-mars 2021 n'avait jamais été transmise au parquet et que dans le courriel envoyé par le policier qui a pris sa plainte figure seulement la grille d'évaluation du danger, la fiche d'évaluation des victimes mal remplie, partiellement illisible. Et en fait, on comprend pourquoi. Eh bien, tout simplement parce que ce policier qui a maltraité son dossier de plainte, le dossier Chinese, eh bien, venait tout juste d'être condamné lui-même à 8 mois avec sursis pour violence conjugale sur son épouse. Donc cela avait fait grand bruit, la révélation du canard enchaîné du 20 juillet dernier. Suite à la publication du rapport, Matignon avait alors annoncé 6 mesures pour renforcer la protection des victimes de violences conjugales, dont la plupart déjà existantes mais pas appliquées. Pourtant, on attend toujours la protection de femmes victimes de violences conjugales. Eh bien, elle passe aussi par la garantie qu'elles ne seront jamais en contact avec des policiers et gendarmes agresseurs. Donc, je vous encourage à venir ce soir, donc à 19h, à la librairie Transit, pour rencontrer Sophie Boutboul, qui vous parlera donc de cette enquête sidérante sur l'omerta qui règne au sein de la hiérarchie de la police et dans la gendarmerie. Effectivement, je pense que connaître l'ampleur de ce phénomène, c'est très très important. Voilà, et je pense que c'est important que vous relayiez cette pétition donc, d'Oser le féminisme pour demander au ministère de l'Intérieur une enquête exhaustive pour connaître le nombre de policiers et gendarmes mis en cause dans des affaires de violence faites aux femmes et ou aux enfants et savoir à quel poste ces auteurs sont actuellement affectés. Voilà. Je crois que je vais faire une autre petite pause musicale, si vous voulez bien, pour avoir le temps justement de m'y retrouver. Attendez, voilà, 2 secondes. Voilà, donc je vais vous faire écouter Songs from Liquid Day, Michael Riesman, si ça marche bien, j'espère.
Turning to speak, turning to
La Révolution sera féministe sur Radio Galère. Voilà, donc j'espère que cette musique vous a plu et ça m'a permis de reprendre mon souffle. Donc, je vous disais tout à l'heure qu'il y a pour la Journée internationale contre les violences masculines faites aux femmes, une initiative bienvenue de solidarité universaliste du droit des femmes, de solidarité donc interassociative européenne en faveur des femmes afghanes. Donc, je vais vous lire cet appel avec de nombreuses associations féministes, universalistes, laïques, et pour la plupart aussi abolitionnistes. Du droit des femmes. Donc, les signataires sont nombreuses et je vais vous dire la plupart des associations, je les connais, donc comme l'Assemblée des femmes, notamment avec Geneviève Courreau, la Ligue du droit international des femmes, avec Annie Sugier, que je salue, Regard de femmes, Michel Vianès, Réussir l'égalité femmes-hommes, Huguette Klein, Women's Initiative for Citizenship and Universal Rights, excusez la prononciation, avec Lalia Duco, dont je vous avais fait écouter récemment dans un podcast une de ses interventions par rapport à l'universalité des droits que l'on demande pour les femmes de culture musulmane qui demandent avoir les mêmes droits que les autres femmes. Voilà, voilà. Bon, je vais vous lire l'appel tout simplement. Donc, un appel avec rassemblement organisé devant le Parlement européen le 25 novembre à 12h. Solidarité avec les filles et les femmes d'Afghanistan pour le droit à la vie, à la sécurité, à la santé, à l'éducation. Donc, par la coordination d'associations européennes solidaires des femmes d'Afghanistan. Le retrait militaire des États-Unis d'Afghanistan le 31 août dernier a précipité ce pays dans une terrible crise aux multiples visages, ouvrant la voie à un retour au pouvoir des talibans. Nous gardons encore en mémoire les quelques images qui ont fait le tour du monde avec des femmes devenues des ombres bleues, prisonnières dans leur tchadri, traversant furtivement les rues au milieu des années 90, et ce, jusqu'à la chute du régime en 2001. Après 2001, les femmes se sont remises à vivre, à se soigner, à sortir, à fréquenter les salons de coiffure et de beauté, à étudier, à travailler, à faire du sport, bref, à s'impliquer de mille et une façons. Les petites filles ont repris leur cartable et ont retrouvé le chemin de l'école. Cette visibilité marquait leur retour dans l'espace et dans la vie publique. En 20 ans, des gains considérables ont été faits, cultivant l'espoir d'une vie meilleure dans un pays qui peinait à sortir la tête de l'eau, frappé par l'insécurité, l'instabilité politique, la corruption endémique et les luttes claniques qui n'ont jamais cessé. Pendant toutes ces années, les filles et les femmes ont incarné un véritable changement. L'année dernière, 3,5 millions de femmes étaient scolarisées, 100 000 femmes fréquentaient des universités, publiques et privées, un millier parmi elles étaient devenues chefs d'entreprise, 500 femmes occupaient la fonction de juge et procureur et 12 000 étaient engagées dans la police et l'armée. Cet élan a été brusquement interrompu par la reprise en main du territoire par les talibans. Mais ces femmes sont encore là-bas, prêtes à poursuivre leur œuvre et leur chemin. Qui plus est, et en corollaire, le pays est au bord d'une très grave crise humanitaire. Quelques 22,8 millions d'Afghans, soit plus de la moitié de la population, seront cet hiver à court de nourriture. Parmi eux, 3,2 millions d'enfants de moins de 5 ans souffriront de malnutrition aiguë d'ici à la fin de l'année. Des familles en viennent donc à vendre leurs petites filles à des hommes très âgés. Des milliers d'enfants traînent dans les rues, au bord de l'esclavagisme. Qu'est-ce qu'on attend pour agir ? Nous, femmes européennes de différents horizons, impliquées dans la société civile, sommes très préoccupées par la situation de nos sœurs afghanes. Nous sommes très inquiètes des nouvelles qui nous parviennent de là-bas. Les femmes vivent dans une terrible peur et craignent pour leur vie et celle de leurs enfants. Certaines se suicident et d'autres sont exécutées. À l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, nous, femmes européennes de différents horizons, impliquées dans la société civile, exprimons notre solidarité concrète et agissante à l'endroit des femmes d'Afghanistan. Pour ce faire, nous nous adressons au gouvernement de nos pays, ainsi qu'à l'Union européenne, pour que nos décideurs prennent la mesure de la situation et assument leurs responsabilités. Pour nous, reconnaître le régime des talibans n'est pas une option. Bien au contraire, ça serait une trahison de nos valeurs européennes. Il faut envoyer un message clair et sans équivoque aux talibans, selon lequel la vie, la sécurité, la santé, l'éducation des filles et des femmes sont des droits non négociables. Nous saisissons cette occasion pour appeler à l'Europe la nécessité de parler et d'agir en bloc cohérent, afin d'asseoir son pouvoir tout comme le font d'autres puissances. Nous plaidons en faveur d'un retour de l'aide humanitaire européenne, tout comme nous demandons à ce que celle-ci soit conditionnelle à l'amélioration des conditions de vie des femmes et des petites filles. Ces dernières doivent renouer avec l'école, l'éducation étant leur meilleur allié. L'autre volet sur lequel nous travaillons est l'accueil des réfugiés. Des milliers de femmes ont été jetées sur les chemins de l'exil, dont certaines sont arrivées en Europe dans l'urgence et la précipitation, sans titre de séjour, abandonnant une partie de leur famille là-bas. Nos États doivent se montrer à la hauteur de cette situation et accueillir comme il se doit ces rescapés de la mort. L'accueil n'est pas seulement du seul ressort des États, il est aussi l'affaire de chacune et chacun, de toutes et tous, et bien entendu de la société dans son ensemble. Voilà le texte d'appel. Donc, elles appellent donc à une large mobilisation le 25 novembre, ce jeudi à midi, qui se fera devant le Parlement européen, place du Luxembourg, pour faire entendre vos voix en faveur de la solidarité de l'accueil des femmes d'Afghanistan. Voilà. Donc, il y a évidemment beaucoup d'autres associations que celles dont je vous ai parlé. Je ne vais pas toutes les lire, mais bon, notamment aussi une qui s'appelle NEGAR, Soutien aux femmes d'Afghanistan, avec Choukria Haïdar et Geneviève Kourou, qui est secrétaire à Marseille. Et si vous voulez en savoir plus sur cette association et tout ce qu'elles ont fait depuis des dizaines d'années, vous pouvez retrouver le podcast qui avait pour invité donc, Geneviève Kourou, que j'ai eu la chance de pouvoir inviter. Voilà. Donc je vais enchaîner avec des actualités. Déjà, ainsi revenir sur cette petite phrase très choquante que je viens de lire dans l'appel, qui rappelle que des familles en viennent à vendre leurs petites filles. Ça me gêne de juste dire ça comme ça. Du coup, je vais lire cette petite publication sur les réseaux sociaux de Ibtissane Betty Lashgar, que je salue et qui a relayé cette information terrible. Et donc ce qu'elle dit, c'est « Elle s'appelle Parwana, elle a 9 ans, elle est afghane, son père l'a vendue. » Parce qu'effectivement, je pense que ce n'est pas la peine de dire les familles, mais ce sont bien les pères. « Son père l'a vendue à un homme de 55 ans en vue de contracter un mariage pour, entre guillemets, nourrir sa famille. Un père vend sa fille à un pédocriminel. Le voilement des fillettes participe à l'hypersexualisation de leur corps, à la culture du viol et à la culture pédocriminelle. Pour preuve, les filles et les femmes sont en tout temps et en tout lieu opprimées, vendues, exploitées, violées par un système d'esclavage phallocrate et misogyne réduite à des objets sexuels. Les filles et les femmes ne sont pas des marchandises. » Donc je salue Ibtissane Betty Lashgar, qui fait partie du collectif Abolition Porno-Prostitution et qui lutte aussi pour les droits des femmes, notamment au Maroc, contre l'obscurantisme religieux islamique. Voilà. Donc il y a aussi une autre nouvelle que j'avais pas eu le temps non plus de relayer, qui est pourtant très très importante. Donc je vais le faire maintenant. C'est en Iran et il s'agit de l'avocate Nasrin Sotoudeh, qui a 10 ans de prison supplémentaire et 148 coups de fouet pour cette avocate, pour s'être présentée devant le tribunal en Iran sans le hijab. Et pendant ce temps-là, rappelons que le Conseil de l'Europe vantait le hijab récemment. Heureusement, cette campagne a été suspendue. Nasrin Sotoudeh, 55 ans, purge déjà une peine de prison de 5 ans. Sa condamnation intervient après la nomination d'un radical à la tête de la justice iranienne. L'avocate iranienne Nasrin Sotoudeh, célèbre militante des droits humains, qui purge déjà une peine de prison de 5 ans, a donc été condamnée à 10 années supplémentaires et 148 coups de fouet. Son mari Reza Khandan, qui a confirmé la sentence, a précisé qu'elle avait été condamnée pour, je cite, entre guillemets, incitation à la débauche. Il a précisé que son épouse était condamnée au total à 33 années de prison, en plus des 5 ans qu'elle purge déjà depuis juin dernier à la maison d'arrêt d'Evin près de Téhéran pour 7 chefs d'accusation. Mais seule la peine la plus longue s'applique. Les 148 coups de fouet lui seront infligés parce qu'elle s'était présentée une première fois devant le tribunal sans le hijab, le voile islamique obligatoire pour les femmes dans l'espace public. Lundi, elle avait décidé de ne pas se présenter devant les juges, estimant que les conditions d'un procès équitable n'étaient pas réunies. Elle a défendu des femmes ayant enlevé leur foulard en public. L'affaire en cours inclut, selon son époux, des poursuites pour conspiration et propagande contre le système politique de la République islamique iranienne. Voilà ce que j'ai à dire sur Nasrin Sotoudeh. Aussi, vous rappelez par rapport à l'Iran, une autre femme, Sadaf Kadem, qui est une boxeuse iranienne qui se bat elle aussi pour la cause des femmes. Elle a été récompensée en 2012 du prix Sakharov qui est décerné par le Parlement européen. Voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire sur ce sujet-là. Donc, maintenant, je vais revenir aux violences conjugales. Je vais vous faire passer, donc je reviens en France, violences conjugales, droits des femmes. Je vais vous faire passer un extrait sonore d'une très célèbre avocate que j'ai eu la chance de rencontrer grâce à l'Assemblée des femmes lors des universités d'automne. Donc, il s'agit de Anne Bouillon. Voilà, et en fait, je vais vous faire passer un extrait d'un podcast qui s'appelle À vous demain, où du coup, voilà, le podcast est très très long, mais moi j'en ai fabriqué un petit extrait audio de 12 minutes que vous allez écouter maintenant. Voilà, de quoi s'agit-il ? Eh bien, en fait, donc Marie qui a fait le podcast, un podcast qui s'appelle À vous demain, qui est très bien fait, donc je vous encourage aussi d'écouter. Et celui-là, c'est le podcast numéro 13, donc, où elle rencontre Anne Bouillon, qui est avocate spécialisée dans les violences faites aux femmes au tribunal de Paris. Au moment de cette rencontre, Anne Bouillon sortait de 4 jours d'audience pendant lesquels elle défendait des mineures étrangères enrôlées de force dans les réseaux de prostitution à leur arrivée en France. Donc depuis des années et des années, ça fait en fait, elle vous le dira, vous l'entendrez dans le podcast, ça fait 20 ans qu'elle exerce et elle défend les femmes exploitées, les femmes qui ne peuvent plus rentrer chez elles par peur des coups, les femmes qui se laissent entraîner dans des spirales inouïes de violence. Elle est citée aujourd'hui comme la troisième avocate la plus puissante de France. Elle prône, c'est ce que je trouve tout à fait remarquable et très intéressant, vous allez l'entendre, un exercice féministe, engagé et passionné de son métier d'avocate. Et elle entend bien faire évoluer les mentalités sur la place des femmes. Donc c'est une grande féministe. Elle dénonce d'emblée la domination masculine qui s'exprime partout dans notre société. Donc dans cet extrait, vous l'entendrez. Elle en parle très bien. Et elle raconte notamment qu'elle a dû se battre pour ne pas être renvoyée à sa condition de femme dans l'exercice de son métier. Elle regrette qu'on la qualifie encore de passionnariat après une plaidoirie animée. Pour elle, son chemin, là, dans cet extrait, vous ne l'entendrez pas, mais c'était avant, mais enfin, vous pouvez retrouver, je mettrai en référence le podcast en entier. Donc, si vous voulez, vous pourrez écouter en entier. Et son chemin de vie, eh bien, son engagement féministe prend racine dès l'enfance. Elle a eu toute une transmission féministe, je crois que dans l'extrait elle en parle. Alors que dire d'autre ? Dans son cabinet, elle reçoit depuis 20 ans des femmes victimes de violences, de toutes les violences, des femmes battues sous les yeux de leurs enfants, ou des mineures libyennes exploitées par des proxénètes sur les trottoirs parisiens et nantais. Elle veut rappeler aux femmes que le devoir conjugal n'existe pas, que des voies de sortie existent, mais qu'il faut s'organiser et se préparer pour parler. Car après des mois, voire des années passées à subir des violences, lorsqu'on se décide à porter plainte, on ne peut pas se permettre d'être su à la gendarmerie entre deux vols de mobylettes. Il faut s'entourer, et c'est pour cela que le numéro d'urgence du 3919, les CIDF et toutes les associations de soutien d'orientation pour les femmes victimes de violences et les avocats sont là. Voilà, donc je vais vous laisser l'écouter. C'est vraiment très très chouette, ça donne beaucoup d'espoir. Enfin, ça m'en a donné, donc je pense que ça vous en donnera aussi. Juste vous dire que à Marseille, l'association féministe avec laquelle je travaille régulièrement, dont je relaie les actions, dont je partage les valeurs, qui oriente des femmes, elle aussi, qui reçoit des femmes, qui accompagne des femmes victimes de violences, c'est Femmes Solidaires Marseille. Voilà, qui a des permanences aussi, mais là j'ai pas. Enfin, en tout cas, vous pouvez trouver leur site Femmes Solidaires Marseille sur les réseaux sociaux aussi. Elles ont une permanence toutes les semaines, même deux fois la semaine, pour accueillir et orienter les femmes victimes de violences. Maintenant, je vous laisse écouter donc Anne Bouillon.
Ça fait 20 ans que je fais ce métier. Et c'est une seconde peau, en fait. Hein. C'est plus qu'un métier, c'est une identité. C'est presque inscrit au cœur de mon patrimoine génétique.
Et vous avez dit que vous étiez le fruit d'une longue lignée de femmes qui transmettent aux femmes. Est-ce que vous pouvez nous en parler, de cette lignée ? Est-ce que ça a influencé votre choix de défendre aujourd'hui des femmes ?
Non plus. Non plus. Mon choix de défendre des femmes, il procède d'autres choses. Hein. Mais votre question, elle porte sur la transmission. Et moi, je viens d'une lignée de femmes qui sont des femmes fortes et qui sont des femmes engagées. Ça, c'est la constante. J'ai une mère qui a fait du syndicalisme, qui a été engagée dans des associations féministes. J'ai une grand-mère qui a vécu la Seconde Guerre mondiale, dont la famille a été déportée. J'ai des arrière-grands-parents et des arrière-grand-mères qui étaient des migrantes et donc qui ont connu l'exil. Et puis j'ai une fille qui a 14 ans aujourd'hui et qui est le fruit de tout ça. Pour moi, les choses s'inscrivent vraiment dans la durée et dans la transmission. Donc, je me sens dépositaire de tout ça. Mmh. Et il est extrêmement important pour moi aussi de transmettre ça. Alors, ce n'est pas qu'une histoire de femme à femme. C'est une histoire de femme à femme. Non, mais mon engagement féministe, il vient d'ailleurs, même si tout est lié. Je crois que c'est ma condition d'avocate qui a fait que je me suis sentie moins légitime que mes confrères hommes. Ça, c'est la première chose.
Dès le départ, du coup ?
Moi, il m'est apparu, mais ce n'est pas le cas de toutes mes consoeurs, mais moi, il m'est apparu que c'était moins facile pour moi. Que très souvent, j'étais ramenée à ma condition de femme. On pouvait, que ce soit positif ou négatif, en fait, mais cette condition sexuée me définissait, y compris dans mon exercice professionnel. Si je fais quelque chose de bien, eh bien, on va me gratifier d'un qualificatif en disant que je suis une passionnariat. Donc, on me ramène du côté de la passion, pas de la raison. Si je fais quelque chose de mal, ou si j'échoue, ou si je suis moins performante, peut-être que c'est à cause de mes hormones, voire parce que j'ai mes règles, voire d'autres choses qui ont trait à ma sexualité, par exemple. Ma condition de femme m'a quand même beaucoup définie dans ma pratique professionnelle. On m'a enjoint de m'intéresser à des secteurs du droit qui sont presque de manière essentialiste réservés aux femmes. Évidemment, je pense au droit de la famille. Évidemment, je pense à la protection de l'enfance, où nous aurions, nous, femmes, un intérêt presque naturel. Hein, c'est ça le discours essentialiste, à être investi. Ça a été très marquant pour moi. Les secteurs nobles du droit, ils sont encore très masculins, le grand pénal, le droit civil pur, le droit des contrats. Même si la profession d'avocat se féminise, elle est même majoritairement féministe, féminine, cette profession. En réalité, il y a encore des injonctions à nous cantonner à des domaines qui nous définiraient. Ça, c'est le premier constat que j'ai fait. Le deuxième constat que j'ai fait, c'est que ma salle d'attente, dès lors que moi, je me suis dit que j'allais défendre des gens et que je ne faisais pas du droit des affaires, c'est quelque chose qui ne m'a jamais intéressée, eh bien, elle ne désemplissait pas de parcours de femmes qui subissent des violences, qui vivent des violences, qui viennent déposer devant moi des parcours de souffrance, qui viennent déposer devant moi des paroles de douleur. Et ce qui est paradoxal, ce qui m'a vraiment sauté aux yeux, là pour le coup, c'est qu'elles pouvaient et elles peuvent toujours ne pas décrypter les choses en termes de domination masculine, qu'elles peuvent toujours ne pas vivre les choses sur le mode de la violence. Je m'explique. Il arrive à certaines de mes clientes de me décrire des choses du type du contrôle, voyez, qu'un époux contrôle les dépenses, les allées et venues, les manières de se vêtir, les fréquentations, et que les femmes en ont assez, trouvent ça pesant, trouvent ça contraignant, mais n'interprètent pas ça en termes de domination et en termes de violence conjugale. C'est compliqué, cette histoire. Pour moi, ce que ça dit qu'on a collectivement un seuil de tolérance très élevé, en fait, aux violences et à la domination masculine. Ce que ça dit aussi, c'est que c'est très pernicieux, c'est très, très infusé, comme ça, dans notre fonctionnement de société. Et moi, ça me fatigue, en fait. J'en ai marre de l'inégalité, j'en ai marre des systèmes inégalitaires. Et puis c'est ce constat-là presque empirique de ce que subissent les femmes dans leur intimité, dans leur vie de tous les jours, dans leur sphère professionnelle, dans leur sphère familiale, quand les portes sont closes. Les dossiers se sont empilés sur mon bureau avec des choses qui sont très récurrentes, qui sont très marquantes. Et alors, je vous parle pas forcément des viols, des nez cassés, des cocards sous l'œil. Parce que ça évidemment qu'on l'analyse tout de suite au prisme des violences. Non, je vous parle de rapports qui sont plus complexes, de choses où l'inégalité est la règle, où finalement on est sur un système de domination patriarcale. Cette domination patriarcale, elle me semble vraiment appartenir à... il faut que ça appartienne à l'histoire. Il faut que... moi, j'ai l'ambition d'une société moderne, égalitaire, où on peut avancer sans être déterminé par l'appartenance à un genre, quel qu'il soit d'ailleurs. En fait.
Tout à fait. Et on va y revenir, mais pour comprendre un peu le cheminement, vous commencez votre carrière d'avocate donc à peu près 30 ans,
oui.
en défendant des jeunes femmes qu'on appelle des petites bonnes. Ce sont des femmes qui viennent du Maghreb et qui deviennent esclaves, parfois sexuelles, dans des familles françaises. Ensuite, vous arrivez à Nantes et Médecins du Monde vous propose de défendre des étrangères victimes de proxénétisme. Pendant 15 ans, vous ne quittez plus ce sujet et vous allez vous employer à rendre leur dignité à toutes ces femmes. Une fois qu'on met le doigt dans l'engrenage de ce genre d'affaires, on ne peut plus s'arrêter ?
Ah, on ne peut plus. On ne peut plus. Et d'ailleurs, c'est encore ce que je plaidais ce matin. Hein, et vous me cueillez à la sortie d'un dossier comme ça. Pour moi, il n'y a pas d'équivalent. D'abord, je suis tellement éperdue d'admiration pour le courage de ces femmes. Vous n'avez pas idée de ce qu'elles subissent. Elles subissent l'innommable. Elles subissent l'impensable. Elles subissent l'organisation de leur exploitation, de leur intimité. Elles subissent... elles voient la mort en face tout le temps. Elles traversent la Méditerranée. Elles survivent à ça dans des conditions absolument épouvantables. Et elles arrivent sur les trottoirs français pour être traitées vraiment comme des marchandises. Et elles sont traitées comme des marchandises. Celles qui ont le malheur de tomber enceinte, on les fait avorter. Celles qui sont malades, on les renvoie au pays. Elles sont partagées entre les proxénètes. Bref, elles vivent. Elles sont dépossédées d'elles-mêmes. Leur corps ne leur appartient plus. Elles sont parfois très jeunes. et elle trouve une force en elle pour celles qui dénoncent ça et qui ont ce sursaut d'énergie vitale. Elle trouve une force en elle qui me laisse, moi, béate d'admiration. Et elles sont d'une dignité et d'un courage absolu. Et lorsqu'elles viennent devant l'institution judiciaire réclamer justice, alors c'est toute leur souffrance et toute leur dignité bafouée qu'elles viennent demander à retrouver. Et moi, j'ai l'honneur de les accompagner là-dedans. J'ai l'honneur de participer à ce processus de réparation. Et je suis très fière de pouvoir faire ça. Ça me tient vraiment à cœur. Parce que ces jeunes femmes, ce sont les parias de l'humanité, véritablement. Et quelle responsabilité, nous, comme société, collectivement, avons-nous à tolérer la traite des êtres humains sur notre sol, à tolérer de ce que des enfants, hein, quand on a 13, 14 ans, on est des enfants, soient prostituées au Bois de Boulogne, à Nantes ou ailleurs. Et au nom de quoi le corps de ces femmes devrait être mis à disposition, à notre disposition, le corps de ces femmes noires devrait être mis à la disposition de la sexualité des hommes blancs. C'est évidemment abject, mais le qualificatif n'est pas le bon. C'est très, moi, ça m'interroge beaucoup sur qu'est-ce qu'on produit comme société inégalitaire et dans quoi est-ce qu'on vit. Ça me met vraiment en colère, ça, en fait. Et ça me met en mouvement. Et voilà, être là dans le prétoire à leur côté, c'est essentiel.
C'est essentiel. Et pour qu'on essaye de se projeter un peu dans votre quotidien et dans le cheminement que vous avez fait là pendant 15-20 ans, est-ce que vous vous rappelez de votre premier procès pour violence sexiste et sexuelle? Et ce que j'aimerais savoir, c'est le sentiment que vous avez ressenti à ce moment-là. Ça a dû être un vrai choc. Parce que moi, j'étais là, j'ai passé 10 minutes dans la... Dans la salle d'audience, c'est un petit choc quand même, effectivement, de se dire qu'il se passe ça, parce qu'on n'y est jamais, en fait. On se rend pas compte de ce qui se passe entre ces murs. Est-ce que vous pouvez revenir en arrière et nous dire ce qui s'est passé dans votre thèse à ce moment-là?
Là où je vous rejoins, c'est que moi, je suis un peu surprise de ce que les médias n'aient pas tous leurs projecteurs braqués sur ces dossiers-là, parce que je crois qu'il y a véritablement un regard qu'on détourne, on veut pas voir, il y a un refus de voir. Il y avait quelques médias dans ce procès ce matin, mais pas énormément, vous voyez. Et bien sûr que je me rappelle de ce premier procès. Bien sûr que je me rappelle de cette jeune fille. Je me rappelle de son prénom, je me rappelle de son visage. Je me rappelle de ce qu'elle a subi dans les parkings souterrains des immeubles où elle était enfermée, d'ailleurs, dans ces parkings pour être contrainte à la prostitution avec des hommes qui se succédaient à ses côtés. Bien sûr que je me rappelle de tout ça. Et voilà, depuis, ça ne cesse pas. Je n'ai jamais arrêté de les défendre. Et j'espère pouvoir le faire encore longtemps. Mais en même temps, il y a des choses qui avancent. Parce que vous voyez, aujourd'hui, la jeune fille que je défends, elle, avec d'autres victimes de traite des êtres humains, elles ont créé leur propre association. Et elles sont venues, elles portaient des t-shirts toutes à la mémoire de leurs amies qui sont mortes noyées en Méditerranée lorsque le bateau a chaviré. Et elles viennent réclamer justice et elles se structurent elles-mêmes en association. C'est étonnant, ça. C'est-à-dire qu'elles elles se réservent les propres moyens de leur action. Et elles se réservent les propres moyens de leurs revendications et de leur identité. Elles arrivent à un stade où elles n'ont plus besoin d'être chaperonnées, épaulées, tutorées par même des associations qui sont bienveillantes, hein, mais qui sont des associations voilà, de prise en charge sur le plan social. Non, là, elles se prennent elles en main, elles s'émancipent en fait, et elles grandissent à travers ça. Et là aussi, moi, je leur tire mon chapeau.
Thank you.
sera féministe sur Radio Galère. Voilà, est-ce que ça marche le micro? Oui. Ok. Donc, je reprends le micro pour vous parler de la campagne du mouvement du Nid à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de toutes les violences masculines à l'égard des femmes. Le mouvement du Nid lance une campagne de sensibilisation sur les violences subies par les personnes prostituées, je dirais par les femmes, hein, 98%, allant jusqu'au féminicide. Pour suivre et relayer la campagne, il y a des comptes, Instagram, Twitter, voilà. Donc la violence masculine est la première cause de mortalité des femmes de 16 à 44 ans dans le monde. Ça, on l'oublie souvent. Une proportion importante de ces femmes sont tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. L'apparition de ces dernières années du terme féminicide a permis de mettre en lumière la dimension machiste de ces meurtres. Mais certains de ces féminicides restent oubliés. Les féminicides commis dans le milieu prostitutionnel, le plus souvent par des entre guillemets clients, quel mot horrible, et des proxénètes contre des femmes et des personnes transgenres. Donc il y a tout un dossier qui a été fait, toute une campagne donc, sur les réseaux sociaux sur les féminicides prostitutionnels que vous pourrez trouver sur le site du Mouvement du Nid. Effectivement, il y a dans ce dossier, en première page, le Mouvement du Nid dit « Si l'assassinat de Chaynaise par son ex-mari à Mérignac devient en 2021 une information capitale qui intéresse le pays tout entier parce qu'elle a enfin compris son caractère systémique, le meurtre d'Alaïs, prostituée, femme prostituée, tuée par un client, entre guillemets, reste cantonné à la rubrique « faits divers ». La violence prostitutionnelle, souvent mise à part et souvent tue, reste un maître à jour. Donc la loi 2016 a représenté un progrès en faisant juridiquement des violences contre des personnes prostituées un facteur aggravant. Il faut désormais faire reconnaître ces meurtres comme des féminicides à part entière et dire stop à toute forme de violence prostitutionnelle, du harcèlement à la violence conjugale, lorsque c'est d'ailleurs souvent le cas, le conjoint, le proxénète est un conjoint, en passant par les insultes, coups et viols imposés par l'argent. Les prostituées ne peuvent plus être considérées comme de simples clients, mais au regard de la violence qu'ils infligent par la contrainte de l'argent, comme des agresseurs qui ne doivent plus rester impunis. C'est ce que normalement demande la loi du 13 avril 2016, qui est malheureusement pas assez appliquée et qu'on demande qu'elle soit appliquée pleinement, tout comme les dispositions de la loi d'avril 2021, qui renforcent la pénalisation des prostituées de mineurs. Pour les mineurs, obtenir un acte sexuel en échange d'argent est désormais passible du crime de viol. Très bien. Et on souhaiterait ensuite que ça devienne vrai aussi pour les femmes adultes. Donc justement, du coup, je vais enchaîner sur un rapport par rapport à la prostitution des mineurs. Et pour cela, j'ai fait une synthèse de diverses publications à propos de ce qu'il en est de la situation de la prostitution des mineurs. Donc j'ai fait une synthèse de publications de la directrice du mouvement du Nid, Stéphanie Karadec, qui a été interviewée à ce sujet par Nathalie Devanda, Charlie Hebdo. Donc je remercie aussi beaucoup ce journal de s'emparer de ces sujets-là. Et aussi, il y a l'Amicale du Nid, donc, qui est liée au mouvement du Nid, donc, qui intervient sur le terrain, qui aussi avait publié à ce propos. Et puis, il y a aussi Gérard Biard, donc, toujours de Charlie Hebdo, qui a aussi publié à propos. Donc, quelle est la situation ? C'est un grand classique. Dès que la sordide réalité de la prostitution des mineurs arrive sous les feux de l'actualité, soit parce qu'un réseau a été démantelé, soit parce qu'une chaîne de télé a diffusé un reportage choc, un grand cri d'indignation s'élève unanime. Les pouvoirs publics doivent agir et vite. Il est vrai que la situation l'exige. Selon un rapport qui a été remis en juillet dernier au secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles, Adrien Taquet, La prostitution des mineurs a augmenté de 70% en 5 ans. On compte entre 7 000 et 10 000 adolescents qui se prostituent en France. Ce sont donc très majoritairement des filles, souvent entre 15 et 17 ans, qui composent cette cohorte de chair fraîche. L'entrée dans la prostitution se fait de plus en plus jeune, parfois à partir de 12 ans. Tous les milieux sociaux sont touchés, même si l'on constate la montée en puissance de la prostitution de cité, qui a bondi, elle, de 87%. Elles sont exploitées par les proxénètes, violées par des clients, qui s'en dédouanent par un billet et sous couvert de consentement. L'Amicale du Nid est la première association d'accompagnement de personnes en parcours de sortie de prostitution depuis sa création par la loi de 2016 et constate que 26% d'entre elles étaient déjà en situation de prostitution mineure, 7% à moins de 14 ans, 19% entre 15 et 18 ans. L'Amicale du Nid a rejoint ce groupe de travail, donc qui a remis ce rapport en juillet dernier, et il y a eu 90 recommandations qui ont été remises au gouvernement. Et notamment l'inscription de la loi dans la loi de mesures éducatives envers les mineurs captés par la prostitution. Normalement, ça fait partie de la loi, mais ça n'est pas assez appliqué. Les travaux qui ont été faits par le groupe de travail qui a finalement rendu un rapport, ça a duré 9 mois. Ça a été présidé par Catherine Champrenault, procureure générale de Paris. Donc le rapport contient 90 recommandations. Et Adrien Taquet, qui est le secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance, a annoncé un plan national d'action pour le mois d'octobre. Bon, rien n'a été fait encore. Donc là, on est au mois de novembre. Et bon, voilà. Alors, des recommandations axées sur l'application des lois existantes, la prévention avec des sessions d'éducation à la vie affective et sexuelle systématique et dès le primaire, ainsi que la mise en place d'actions de soutien à la parentalité. Ce rapport demande que l'éducation nationale joue pleinement son rôle de repérage des situations de risque et de prostitution en créant un ou une référente pivot dans chaque établissement. On demande aussi des actions de sensibilisation tout public, y compris envers les potentiels clients. On demande la formation des professionnels des soins et on demande des soins et un accompagnement des victimes. On demande la poursuite des auteurs. Et un accent particulier a été mis sur la nécessité de protéger les adolescentes et adolescents amenés à la prostitution par les réseaux sociaux. Alors, qu'en est-il de ce plan interministériel annoncé justement suite à la remise de ce rapport par Adrien Taquet. Eh bien, le gouvernement a décidé de mettre en place un grand plan interministériel de lutte contre la prostitution infantile à hauteur de 14 millions d'euros. Bon, ça c'est bien. Espérons que cet argent arrive. Et Adrien Taquet donc a présenté ce plan le 15 novembre dernier. Voilà. Pour l'instant, le problème, c'est qu'on ignore encore le contenu exact du plan interministériel de lutte qui déborde très certainement de belles et bonnes intentions associées à d'énergiques promesses d'action. Mais voilà ce qui est dit. Le développement de la prévention dans les établissements du secondaire et l'ambition de développer, grâce à la formation, une culture commune auprès de nombreux professionnels. Actions médico-sociales, éducatives, services de santé, police et justice. Donc tout ça, on ne peut que s'en réjouir. Et le gouvernement promet aussi une prise en charge immédiate des victimes dès les premiers signes de détresse. Sachant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà tout ce qu'il faut dans notre arsenal législatif. La loi du 4 mars 2002 interdit déjà la prostitution des mineurs. La procureure a souligné que l'interdiction de la prostitution qui existe dans cette loi n'est pas connue des professionnels et il faudrait l'inscrire dans un code législatif. Il y a la loi du 13 avril 2016 qui pénalise les clients de la prostitution. Il y a celle du 21 avril 2021 qui supprime toute notion de consentement à un acte sexuel en dessous de 15 ans et qui renforce les peines pour le recours à la prostitution des mineurs. Il n'y a donc que l'embarras du choix pour faire appliquer ces lois. L'ennui, c'est que si la loi est importante, elle ne peut pas tout, surtout dans ce domaine. Et il manque une volonté politique et également le regard de la société et surtout les médias qui est un mauvais regard pour l'instant qui est porté sur la prostitution, un regard complètement falsifié. Certes, tout le monde est d'accord, des enfants prostitués, c'est horrible, mais c'est horrible parce que ce sont des enfants, c'est ce que pense tout le monde, mais pas parce qu'ils sont pas parce qu'ils sont prostituées. On remarquera d'ailleurs que dans la majorité des reportages ou des enquêtes sur le sujet, on s'apitoie sur ces adolescentes vendues sur des sites de rencontres ou des réseaux sociaux, mais les hommes, de tout âge et de tout milieu social, on n'en parle pas. Les hommes qui leur passent dessus, qui restent le plus souvent dans l'angle mort, pourtant, ce sont des pédocriminels. Mais ça paraît presque anecdotique dans les reportages, dans les séries qui passent à la télé. Ils demeurent d'abord des clients. Donc Stéphanie Karadec, interviewée, dit ceci. Donc le groupe de travail préparatoire a été présidé par Catherine Champrenault, procureure générale de Paris. Des discussions qui ont duré 9 mois. Si on salue l'intention de ce plan, on s'interroge car il y a encore peu de détails sur la façon dont les actions seront menées. Et bien sûr, nous regrettons le grand absent des préconisations du plan, le client. Plus précisément, le plan indique que les clients et les proxénètes nourrissent le phénomène, mais aucune action concrète n'a été annoncée pour améliorer la répression des hommes qui achètent des actes sexuels à des enfants. L'État doit aller plus loin. Un nombre infime de clients prostitueurs sont aujourd'hui interpellés et l'impunité reste la norme. La campagne de sensibilisation auprès du grand public, hein, nous on l'attendrait dans les écoles ou partout, qui était prévue au premier semestre 2022 par le plan, devrait, moi je l'attends toujours aussi comme elle, s'adresser à eux. Alors, il faut savoir donc que le NI, Amical du NI, Mouvement du NI, travaille sur la prostitution depuis des décennies. Donc voilà ce qu'elle dit à propos de comment elle voit l'évolution, notamment pour les mineurs. Le mouvement Le NI est une association dite abolitionniste qui milite pour l'abolition de la prostitution tout en aidant celles et ceux qui se prostituent. Elle édite une revue trimestrielle Prostitution et Société. Le mouvement mène des actions d'accompagnement des personnes prostituées, mais aussi de la prévention auprès des jeunes dans les écoles, la sensibilisation des acteurs sociaux et du grand public. L'Amicale du NI est la première association d'accompagnement de personnes en parcours de sortie de prostitution depuis sa création par la loi de 2016 et constate que 26% d'entre elles étaient déjà en situation de prostitution mineure. Alors elle dit « S'il est difficile de donner un nombre précis de jeunes filles mineures prostituées, une chose est sûre, Internet et les réseaux sociaux sont un immense facilitateur pour le passage dans la prostitution. Des jeunes filles qui exposent leur vulnérabilité, leur dispute avec leurs parents par exemple, leur envie de fuguer. Tout ça c'est du pain béni pour les recruteurs. Les proxénètes sont à l'affût pour entrer en contact avec elles. Ils se font passer pour des lover boys, des garçons gentils et compréhensifs, qui vivent eux aussi des grosses difficultés. » Ce piège des proxénètes a toujours fonctionné. Mais avec Internet, la chasse est plus vaste. Dès que l'ado est amoureuse et ou sous emprise, le loverboy va se transformer en homme insistant, voire violent, pour inciter ou forcer sa copine à franchir le pas et à se prostituer. Même facilité pour les clients, avec Internet, les possibilités d'entrer en contact sont immenses. Même plus besoin de trouver une excuse pour sortir de chez soi et aller au bois de Boulogne. Ils peuvent faire leur marché à domicile, devant leur ordinateur. Ils ne prennent plus de risques. Les réseaux sociaux et les plateformes locatives comme Airbnb sont des facilitateurs énormes qui ont fait exploser le proxénétisme des mineurs. La police, la justice, les magistrats référents sur la prostitution des mineurs le disent. De même qu'on voit le développement de petits réseaux de proxénètes qui, eux aussi, peuvent être mineurs. Des jeunes qui végétaient dans le trafic de drogue se lancent dans le proxénétisme pour s'enrichir plus rapidement et à moindre risque. Les policiers parlent de micro-réseaux qui passent au travers des mailles de la loi, malgré l'engagement croissant de la justice et de la police sur le sujet. Alors, quand on lui demande qu'est-ce qui fait que les lois sont si peu ou mal appliquées, voilà ce qu'elle dit. Eh bien, parce qu'il y a une chose qui s'appelle le sexisme et le patriarcat, qui acceptent toujours l'achat d'actes sexuels, surtout quand c'est majoritairement auprès de femmes. Acheter un rapport sexuel avec une adolescente est un délit. Les proxénètes, comme les clients prostitueurs, sont en principe sanctionnés par la loi, mais dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué. Les clients se dédouanent facilement avec un billet glissé à la jeune fille. Devant les policiers ou les magistrats, ils se servent tous de cette phrase magique. Je pensais qu'elle était majeure. À partir de là, il est très difficile de prouver que ces hommes mentent. Pourtant, il est impossible pour un homme de ne pas voir les conséquences de son acte en imposant une relation sexuelle à une jeune fille. Il est impossible de ne pas voir l'environnement qui règne dans une chambre où les filles enchaînent les passes. Une jeune fille de 14 ou 15 ans, il n'a pas de doute possible sur sa minorité. Dans le rapport remis à Julien Taquet en juillet, une chose frappe. Dans l'écrasante majorité, ces jeunes filles ne se considèrent pas comme victimes, même si elles sont exploitées par des proxénètes. Une sur deux voit des aspects positifs dans la prostitution, en premier lieu l'argent facilement gagné. Surtout, il y a le vocabulaire employé par ces adolescentes pour en parler, c'est celui du monde du travail. Elles bossent, elles ont un contrat, elles passent un entretien d'embauche. La prostitution, c'est mon corps m'appartient et c'est un boulot aussi banal qu'un autre. En clair, ces jeunes filles ne sont pas seulement victimes de macros et de pédocriminels, elles sont aussi victimes d'une propagande, un effet Zaya, celle menée depuis des années, tout azimut et avec grand succès, par les militants du STRAS, l'autoproclamé syndicat du travail sexuel, pour faire du tapin le plus cool et le plus émancipateur des métiers du monde. Discours gobé sans tousser et reproduit sans plus de réflexion par un paquet de médias qui voient d'abord dans la prostitution un chouette sujet à sensation. Alors oui, il faut faire quelque chose. Et pour commencer, changer de lunettes et voir enfin la prostitution, toute la prostitution pour ce qu'elle est. Ni un métier, ni un outil d'empowerment, mais un gigantesque système ultra-violent destructeur d'exploitation sexuelle. Alors voilà ce que dit Stéphanie Karadec. Au départ, la plupart de ces jeunes filles disent « j'assume ». C'est classique chez les mineurs comme chez les adultes. Mais dès que le lien de confiance est créé avec des militants d'associations, par exemple, elles nous disent « je voudrais faire autre chose ». Dire que la prostitution permet de gagner de l'argent facile, c'est vrai pour les proxénètes, mais faux pour les prostituées. Au mieux, ça peut être de l'argent rapide, mais certainement pas facile. Coucher avec un homme dont on n'a pas envie, faire 10-15 passes au plus par jour n'est en fait rien d'autre que du viol répété. Le fait qu'il soit tarifé ne change rien. Une fois lancées dans la prostitution, les jeunes femmes ont du mal à s'en sortir. L'emprise similaire à celle qu'on observe dans les autres violences sexistes et sexuelles les maintient dans un état de dépendance. Comment s'étonner que des jeunes filles fantasment sur la vie d'escorte et une tendance à évoquer la prostitution comme un métier, quand la société, les modèles commerciaux poussent à l'hypersexualisation des corps des femmes et au virilisme des hommes. L'exploitation sexuelle filmée, le porno amateur ou professionnel, banalise des violences sexuelles auprès des plus jeunes. De même quand certains médias utilisent la notion de « travail du sexe ». C'est aussi une forme de banalisation de cette violence qu'est le système prostitutionnel. Une des façons de lutter est, dans ce cas comme dans d'autres, d'employer les bons mots, de faire de la prévention auprès des jeunes et d'avoir les moyens humains et financiers pour empêcher les jeunes de tomber dans la prostitution et aider celles et ceux qui veulent en sortir. C'est-à-dire l'écrasante majorité. Je crois qu'il faut que... Que faudrait-il faire ? L'Amicale du Nid attend par... Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer tout ça ? Alors, voilà la recommandation de l'Amicale du Nid. L'Amicale du Nid attend du législateur que tout achat d'actes sexuels à l'encontre d'une mineure de moins de 18 ans soit qualifié de viol. Et pas seulement pour les moins de 15 ans, comme l'instaure la loi du 21 avril 2021. Combattre la prostitution des mineurs est indissociable de la lutte contre la prostitution en général et d'une application volontariste et ambitieuse de la loi du 13 avril 2021. Il convient de garder à l'esprit que le système prostitutionnel est le même pour les adultes et les jeunes, qu'il est toujours fait de violence, alliant sexisme, racisme, pauvreté, domination, et que de nombreuses personnes adultes en situation de prostitution l'étaient déjà adolescentes. C'est pourquoi il importe d'insister sur l'intérêt d'une sensibilisation de l'ensemble de la population française, pour qu'elle sache la réalité de la prostitution, qui est bien éloignée de la vision glamour banalisée qu'en ont aujourd'hui la plupart des gens et des médias. C'est pourquoi nous réclamons à nouveau que cette sensibilisation soit complétée par la pleine application des mesures énoncées dans la loi, notamment la poursuite des acheteurs sexuels. Voilà, je vais terminer puisque j'ai déjà débordé, mais juste que savoir que selon le rapport inspection générale de décembre 2009 qui était relatif à l'évaluation de la loi, cette loi n'est pas appliquée puisque 1185 contraventions ont été délivrées aux acheteurs d'actes sexuels en 2018, mais il y a une baisse des poursuites engagées concernant les délits de recours à la prostitution des mineurs ou personnes vulnérables. Donc, il y a eu seulement 67 contraventions des clients en 2016, alors qu'il y en avait donc 1185 en 2018. Et il n'y en a plus que 34 en 2018. Voilà. Donc, gros problème par rapport à l'application de la pénalisation des clients que l'on demande. Donc, il faudrait déjà commencer par ça. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Je dois vous laisser puisque il y a l'émission juste après, donc article 25. Merci de votre écoute.